Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Une poussée sans précédent des partis anti-européens, populistes et anti-immigration. Une défaite cuisante pour la gauche. C'est le principal résultat immédiatement visible des élections législatives de ce dimanche en Italie. Alors qu'aucune majorité n'émerge de ce scrutin, la coalition de droite et d'extrême droite formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord et le petit parti Fratelli d'Italia obtient près de 37% des voix. Mais le premier parti d'Italie, c'est désormais le mouvement 5 étoiles avec 32% des voix. Autre enseignement de ce scrutin, la répartition géographique des votes. On peut dire que le pays est littéralement coupé en deux, Cécile Debarge.
La carte des résultats électoraux est sans appel. Au nord, du bleu partout, ou presque, et la coalition de centre-droit en tête. Au sud, une vague jaune, couleur des Grillini, les candidats du mouvement 5 étoiles. Premier parti politique en Italie au lendemain de ces élections, le mouvement 5 étoiles a littéralement triomphé au sud du pays. Ce lundi matin, Giancarlo Cancelleri, leader du 5 étoiles en Sicile, publiait le message suivant sur sa page Facebook. Je vous donne deux nouvelles. D'abord, nous sommes la première force politique en Sicile avec près de 50% des voix. Et ensuite, nous avons infligé une belle défaite à nos adversaires, 28-0. Nous avons gagné tous les sièges des listes uninominales. Rappelons qu'en 2001, c'était le centre-droit qui avait remporté la totalité des sièges en Sicile. À Naples, les quatre sièges des listes uninominales seront occupés par quatre Grillini. La Sardaigne, elle aussi, a donné un net avantage aux 5 étoiles. Un carton plein. Alors, comment expliquer ce raz-de-marée 5 étoiles qui coupe littéralement le pays en deux? L'éditorialiste Gian Antonio Stella avance des hypothèses intéressantes sur le Corriere della Sera. Tout est dit, écrit-il, avec un sondage réalisé par Eurispes en 2018. À la question « Qu'est-ce qui représente pour vous un vrai danger dans votre vie quotidienne, personnelle et familiale ?», les réponses des Italiens étaient les suivantes. Mafia, corruption et politiques incompétents. Des thèmes omniprésents dans la campagne du mouvement 5 étoiles dans le sud de l'Italie, bien plus d'ailleurs que les questions d'immigration finalement assez secondaires. L'éditorialiste conclut par la phrase suivante « À part quelques exceptions, la classe dirigeante du sud a tout fait pour gagner le mépris de ses électeurs et ce faisant, ils ont aggravé la crise. »
À quelques encablures de la botte italienne, l'Albanie a lancé de grands travaux pour construire des incinérateurs de déchets. 4 permis délivrés en 2017, d'autres pourraient suivre. Outre que cette technique est très décriée par Bruxelles, qui dénonce son impact sur l'environnement, elle coûte également très cher. Sur place, les opposants redoutent aussi l'importation de déchets étrangers et s'inquiètent de possibles dérives mafieuses. Reportage de Louis Seyé à Veri, petit village près de Fière, dans le centre de l'Albanie.
Contournant un groupe d'oies qui s'agite près d'une parcelle de poireaux, Léonard sort de chez lui. Comme les 500 habitants de Veri, lui et sa famille vivent essentiellement du travail de la terre.
Ici, c'est une terre excellente. Nos légumes sont acheminés dans tout le pays et exportés vers la Grèce, l'Italie.
La plaine fertile de la Musece, c'est le cœur agricole du pays, le grenier de l'Albanie. C'est pourtant ici que les autorités ont autorisé la construction d'un incinérateur de déchets. À la sortie du village, Léonard montre des camions qui se croisent derrière un talus. Le chantier a commencé.
Le champ retenu pour construire l'incinérateur est à moins de 700 mètres des premières maisons. C'est beaucoup trop proche. Vous savez mieux que moi comment fonctionne un incinérateur. Nos terres vont être contaminées et nous aussi.
Officiellement, l'incinérateur devrait servir à brûler les déchets de la région. Mais ici, comme souvent dans la campagne albanaise, on est bien loin de la société de consommation. La plupart des familles de la région vivent avec 200 ou 300 euros par mois. Des revenus faibles qui génèrent peu de déchets. Seul mais bien visible, quelques plastiques s'accumulent dans les fossés du village.
Ici, on produit très peu de déchets. On utilise tous les déchets organiques dans le travail agricole. Nous ne sommes pas forcément contre l'incinération, mais il faut privilégier le recyclage.
Déterminés à se battre pour protéger leur santé et leur champ des incinérateurs, les habitants de Veri ont obtenu le soutien de plusieurs associations. En ce mercredi d'hiver, c'est ensemble qu'ils manifestent bruyamment devant le Parlement de Tirana. Derrière une banderole en faveur du recyclage, Abdullah Diku est catégorique. Pour cet expert en environnement, l'Albanie n'a pas les capacités de gérer des incinérateurs.
Un million de personnes vivent ici à Tirana et nous sommes incapables de mesurer la qualité de l'air et l'on prétend appliquer des standards environnementaux à l'incinération, une technologie qui est inconnue en Albanie. L'incinération provoque d'importants dégâts. Certains gaz qu'elle produit sont cancérigènes, très nocifs pour la santé. Elle peut avoir de graves répercussions pour une zone agricole comme celle de Fier.
Lors de l'inauguration du premier incinérateur du pays, en avril 2017, le Premier ministre Edi Rama a assuré que la technologie utilisée respectait les standards européens. Les opposants en doutent et s'interrogent également sur la capacité importante de l'incinérateur de Veli, qui pourrait traiter jusqu'à 70 000 tonnes de déchets par an.
C'est un investissement qui répond aux intérêts d'entreprises privées et pas aux problèmes environnementaux des déchets en Albanie. Selon les promoteurs du projet, un habitant de Fier produit autant de déchets qu'un Suisse ou un Danois. Mais au vu du niveau de pauvreté en Albanie, c'est absolument ridicule. Ces chiffres n'existent que pour justifier la capacité de ces incinérateurs qui est bien plus importante que la production locale de déchets. Dans un ou deux ans, ils diront que les incinérateurs ne fonctionnent pas à leur pleine capacité parce qu'il manque de matière et qu'il faut importer des déchets de l'étranger.
Voilà plusieurs années que les gouvernements successifs tentent d'autoriser l'importation de déchets recyclés afin de favoriser les entreprises locales de recyclage. Un texte de loi qui est largement rejeté par l'opinion publique. Celle-ci s'inquiète de voir arriver illégalement des déchets dangereux comme des déchets hospitaliers, de l'amiante ou des résidus toxiques venus notamment de l'Italie voisine. Une crainte alimentée par les soupçons de corruption qui pèsent sur le marché des déchets en Albanie. À Veri, Leonard mène la mobilisation contre l'incinérateur. Mais dans le champ derrière lui, des ouvriers installent déjà les grilles du futur incinérateur.
J'ai travaillé plusieurs années à Naples. Là-bas, j'ai vu comment la mafia s'occupait des ordures. Avec les politiciens corrompus que nous avons en Albanie, comment croire que l'incinérateur respectera les normes de contrôle? La mafia fera ce qu'elle voudra.
Alors que l'Albanie est officiellement candidate à l'Union européenne depuis 2014, les opposants aux incinérateurs brandissent les recommandations de la Commission européenne. Celle-ci préconise d'éviter au maximum l'incinération des déchets. Selon des experts allemands, le recyclage en Albanie est balbutiant.
Les incinérateurs dont vient de nous parler Louis Seyé sont en partie responsables du réchauffement climatique parmi bien d'autres émetteurs de gaz à effet de serre. Alors que l'Europe a connu une vague de froid très intense la semaine passée, la région arctique, elle, a enregistré des températures supérieures de 30 degrés aux normales saisonnières. Des records sur fond de réchauffement climatique sur l'archipel norvégien du Svalbard. On commence à s'adapter à cette nouvelle donne, voire à en tirer parti. Simon Rosé, présent la semaine dernière sur l'archipel, a ainsi découvert la première serre agricole de Longyearbyen.
On est dans la serre la plus au nord de la planète. Elle a la forme d'un dôme et on y cultive nos produits de mi-avril jusqu'à la fin septembre.
On y va ?
Yes.
Benjamin Widmar vit à Longyearbyen, une ancienne cité minière dans l'archipel du Svalbard. C'est la ville la plus au nord de la planète, un semi-désert arctique, comme on dit. Benjamin est également le seul agriculteur à des milliers de kilomètres à la ronde, le seul assez dingue pour penser réussir à faire pousser des légumes ici.
Le but, c'est de fournir de la nourriture locale à la ville, car il n'y a rien qui vient d'ici, tout est envoyé par bateau. Et c'est une île très isolée, donc c'est très cher. La première chose, c'est de faire pousser la nourriture, de la produire. On a des oiseaux d'élevage qui pondent des œufs, donc maintenant on vend leurs œufs. Il y a ces micro-haricots qu'on fait pousser, ça prend une semaine. Et on veut faire pousser des laitues, des herbes, des choux, tout ce qu'on pourra. Ça ne marche qu'à partir de mi-avril. On utilise la serre quand le soleil revient, on en est dépendant. Mais quand on aura le générateur à gaz, on pourra prolonger la saison parce qu'on produira notre propre lumière et chaleur.
Ce gaz utilisé dans le générateur, c'est du méthane, du gaz produit par le compost que Benjamin a installé. C'est la philosophie de la permaculture arctique, ne rien gâcher.
Ici, tout est importé et tout ce qui vient par bateau doit repartir par bateau. Alors on renvoie des déchets, on renvoie des trucs, du carton, du verre, du papier, de l'aluminium. On renvoie tout vers le continent. Ça fait beaucoup de bateaux. Alors que si on fait plus de projets comme le nôtre, on peut éviter tous ces bateaux, on peut réduire le CO2 qui est émis et en plus, on aura de la nourriture fraîche et une meilleure utilisation des ressources. Bien sûr que ça a à voir avec le réchauffement si on renvoie nos poubelles par bateau. On émet du CO2 pour quelle raison? Pourquoi on doit renvoyer des poubelles?
L'entreprise de Benjamin commence à avoir son petit succès. Des restaurateurs sur l'île font appel à ses services. Ils distribuent au supermarché coopératif où les 2200 habitants de Longyearbyen vont faire leurs courses. Le moment est venu de lui dire au revoir. Et il se met à pleuvoir. Nous sommes pourtant en plein hiver polaire.
It's like the warmest place in Europe now.
C'est genre l'endroit le plus chaud d'Europe aujourd'hui. Partout ailleurs, ils ont du négatif et nous, on a plus 4 degrés et il pleut. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si ici, c'est l'endroit le plus chaud d'Europe alors qu'on est près du pôle Nord, je ne sais pas comment l'expliquer.
Le Nord se réchauffe. C'est même la région de la planète qui se réchauffe le plus. L'université de Svalbard est l'une des plus réputées au monde dans les sciences arctiques. Dans l'amphithéâtre, un grand prof barbu, Kim Holmen, fait une présentation. Nous retrouvons le directeur de l'Institut polaire norvégien.
On n'a pas l'habitude de la pluie à cette période de l'année. On l'a déjà vu, mais c'est de plus en plus fréquent depuis 5 ou 10 ans. Il devrait faire moins 20 aujourd'hui, et on a plus 4. Ça a bien un impact sur nos vies. On ne peut plus skier, prendre les motoneiges, c'est même dangereux de marcher, la neige fond et la pluie se transforme en verglas. Mais ça a encore plus d'influence néfaste sur la vie sauvage. Ça perturbe la texture même du sol, les constructions. J'étais au muséum aujourd'hui et on discutait du fait que quelques vieilles tombes commençaient à pourrir alors que le froid arctique doit les conserver pour toujours.
Au cours de sa présentation, Kim Holmen a montré une carte. La Terre, vue d'en haut, centrée sur le pôle Nord, des flèches vont de l'océan Atlantique à l'océan Arctique et inversement.
Les eaux de l'Atlantique remontent vers le Nord avec le Gulf Stream, le courant marin. Mais les océans se réchauffent et l'eau qui arrive ici n'a jamais été aussi chaude. Et c'est une tendance très nette. Cela explique en partie le réchauffement. Quand cette eau chaude arrive, elle fait fondre la banquise. On a donc d'importantes surfaces qui étaient auparavant couvertes de glace, qui ne le sont plus. Et du coup, l'eau qui se trouve libre absorbe la chaleur du soleil et elle relâche en plus toute sa chaleur dans l'atmosphère. Ce sont donc deux phénomènes qui réchauffent cette partie du monde.
Cette année encore, la banquise a battu un triste record. Depuis qu'on la mesure, elle n'a jamais été aussi peu étendue. Pour certains, c'est une opportunité, car moins de glace égale plus de commerce. Et du côté des autorités, on ne s'en cache pas. Alred Olsen est le maire de Longyearbyen.
On voit le réchauffement ici. Il nous affecte, mais on peut s'en accommoder. Et je pense même qu'on peut sortir gagnant de ce changement. Les organismes marins de l'Atlantique remontent jusqu'à chez nous, c'est bien pour la pêche. La banquise fond, donc de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Et bien sûr, le Svalbard, en tant que région de la Norvège, va devenir un lieu très stratégique. Nous sommes un avant-poste en Arctique. Et cela sera une bonne position à avoir dans le futur.
C'est là tout le paradoxe du Svalbard, une zone protégée à plus de 70%, où il y a plus d'ours polaires que d'habitants, des habitants attachés à cette nature qu'ils veulent préserver. Mais en même temps, ce sont les mines de charbon, le tourisme de masse, des bateaux de croisière qui font tourner l'économie. Ici, le changement climatique porte bien son nom, car entre deux trajectoires, la ville la plus au nord du monde va devoir faire un choix.
C'est l'histoire d'une régression européenne. L'histoire, parmi des millions d'autres, de Valentina l'italienne et de Kata la hongroise. À la fin, je réussis à parler avec quelqu'un d'un service de gynécologie. Et là, elle me propose une date pour l'avortement. 6 mois plus tard.
Alors qu'on célèbre ce 8 mars la Journée internationale des femmes, de nombreux médias, dont RFI, proposent une programmation spéciale toute la semaine. Et sur la chaîne franco-allemande Arte, un documentaire, Avortement, les croisés contre-attaquent. Partout en Europe, de nouveaux militants, souvent jeunes, mènent en effet une croisade contre l'avortement et la liberté des femmes à disposer de leur corps. Une enquête menée par Andrea Rollins-Gaston et Alexandra Jousset, qui a répondu aux questions de Catherine Roland.
il y a une nouvelle menace, c'est-à-dire que les réseaux se créent, sont financés, ils ont un savoir-faire et ils se développent. Ces militants sont jeunes, ils sont bien formés, ils sont connectés. Certains viennent de la publicité, d'autres sont journalistes, sont normaliens.
Oui, et ce qu'on remarque aussi, c'est que leur mode de communication est très coloré. On a l'impression quelquefois même de se retrouver dans une manifestation gay. Ce sont effectivement des militants qui adoptent un discours très conservateur, mais masqué.
Ils le revendiquent d'ailleurs de reprendre les codes LGBT. Ils le disent ouvertement, ils reprennent les codes féministes, c'est mon corps, c'est mon choix. Ils reprennent aussi les couleurs flashy, les méthodes, parce que on va filmer à un moment une action coup de poing qu'ils font dans le métro. Ça, l'agit-propre, c'est une méthode trotskiste qui ensuite a été utilisée par ACT UP dans les années 90. Tout ça, ils le reprennent de l'autre camp.
Alors voilà pour la France, effectivement, ça c'est ce type de militantisme. Il y a d'autres situations en Europe qui sont beaucoup plus graves, par exemple l'Italie où pourtant l'avortement est légal depuis des dizaines d'années.
En Italie, là où c'est beaucoup plus grave, c'est que c'est un problème d'accès à l'avortement. C'est-à-dire que 70% des médecins sont objecteurs de conscience. Donc vous réussirez à avorter, le problème c'est les conditions, c'est combien de coups de téléphone vous devez passer, c'est la queue que vous devez faire dans les hôpitaux. Mais l'objection de conscience est une stratégie. C'est-à-dire que ce que nous raconte Lisa Canitano, qui est une médecin italienne, c'est que justement l'Église a fait exprès de placer à la tête des hôpitaux des médecins objecteurs de conscience pour qu'il y ait de moins en moins de médecins qui pratiquent ces avortements. Donc c'est juste un problème d'accès, parce que la loi n'a pas changé, elle est toujours la même, et sur le papier, les femmes ont le droit à l'avortement en Italie.
Oui, des femmes en même temps qui sont bien culpabilisées, parce que dans le nord de l'Italie, hein, c'est ce que vous montrez, c'est hallucinant, des enterrements de fœtus sans que la mère qui a avorté soit même avertie.
Il y a deux choses différentes en Italie. La première qui est des tombes où le nom de famille de la mère est écrit. Donc ça, c'est terrible, parce que c'est une tombe qui quelque part rappelle un jour que vous avez avorté.
C'est aussi une façon de dénoncer en fait la femme qui a osé avorter.
Exactement. La clouer sur une croix, pour un mauvais parallèle. Et ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que par exemple la Lombardie en 2012 a autorisé l'enterrement des fœtus, des embryons, c'est-à-dire des avortements de moins de 3 mois. Et ça, c'est très nouveau en Italie. Ça date de 2012 et c'est en train de s'étendre à d'autres régions en Italie, et c'est vraiment un phénomène qu'on trouvait inquiétant.
Alors, ce que montre également votre enquête, c'est que, évidemment, comme pour tout mouvement lobbyiste, le nerf de la guerre, eh bien, c'est l'argent. Et là, on constate d'étranges collusions entre les ultra-conservateurs américains et les Russes proches de Poutine, qui financent, en fait, tous ces mouvements.
Ce qu'on veut démontrer avec les Russes, c'est que on n'a pas de preuve de financement. En revanche, on a la preuve que les anti-choix européens sont allés chercher de l'argent auprès des Russes. Là, on parle quand même d'un monsieur, Konstantin Malofeyev, qui est interdit de visa en Europe et aux États-Unis pour financement d'armées dans le Donbass, donc c'est pas quelqu'un d'extrêmement recommandable. Et je ne sais pas si les gens sont au courant auprès de qui se finance ce mouvement anti-avortement européen. Donc ça, c'est pour la partie Russie et pour la partie américaine. Donc là, il y a des liens qui sont très nets. Et ça, les Américains qui financent, finalement, on n'est pas tellement surpris. Mais c'était important de le montrer, de le prouver.
Une tendance, en fait, qui se retrouve, hein, même, parce qu'ils sont assez organisés à travers un colloque, qui a lieu tous les ans, un colloque de la famille traditionnelle, où se réunissent donc toutes ces personnalités qui sont contre l'avortement. Et le dernier, c'était d'ailleurs en Hongrie en 2014.
On sent que, en Europe, ils ont compris que le maillon faible, c'était à l'Est. Donc, ils investissent, surtout les Américains, beaucoup à l'Est. Et du coup, on sent que les choses peuvent basculer plus facilement dans les opinions à l'Est que en Europe de l'Ouest, où, il faut quand même le rappeler, les opinions sont majoritairement en faveur de l'avortement.
C'est une guerre des mentalités qui est menée. Est-ce que c'est ça que vous retenez justement de toute votre enquête ?
Aujourd'hui, face aux crises économiques, aux crises avec les migrants, il y a beaucoup de nouvelles questions qui sont en train de se poser. Et revenir sur le droit à l'avortement, on peut se dire c'est assez bénin, mais non, en fait, c'est un choix fondamental de société. C'est la police des corps, c'est le contrôle des femmes, et c'est quelque chose de beaucoup plus large que juste le droit à avorter. On voulait terminer là-dessus, pour rappeler qu'il fallait se battre, et pas seulement les femmes, pas seulement pour le droit des femmes, mais pour une société libre.
Avortement, les croisés contre-attaque, documentaire diffusé ce mardi sur Arte, lien à retrouver sur notre page Accent d'Europe. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition que vous pouvez aussi retrouver sur votre téléphone avec l'appli Pure Radio. On se retrouve demain dès 12h40 en universel.